Bonjour! Bonjour tout le monde! Bonjour les coupés! Merci Sanka pour ton resub! Merci Degnor aussi pour ton resub, merci à toi! Bonjour tout le monde! Yallo! Merci Manitou! Merci Slugish! Ça fait plaisir, merci à vous, bienvenue! Est-ce que vous allez bien les amis? Oh. Oh, j'ai mon café. Regardez, j'ai mon café, j'ai mon mug Fondation pour la recherche médicale. Je suis en train de commencer, enfin de continuer une collection de mugs. Oh là, mug YouTube, mug Twitch, mug Public Sénat, mug Fondation pour la recherche médicale, mug Baxit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai plein. C'est quand les vacances? Oh, la bonne question! Je sais pas. Ça y est, t'es vieux. Ouais, je suis grave vieux. Ouais. Merci Octarine pour ton resub. Ça fait bizarre de revenir sur un live. Je regarde les YouTube en général. Eh bah, très bien, très bien. Non, je suis très content. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Je sais que vous êtes très nombreuses et très nombreux à suivre surtout les vidéos YouTube. Elles sont là pour ça. Selon Davdus, ça te fait un point commun avec Ruffin. De quoi? Les mugs? Ça va très bien. D'ailleurs, bientôt les 100 000 abonnés. Sur YouTube, ouais, bientôt la barre des 100 000, ouais. Oh, ma chaîne YouTube, c'est une chaîne slow, hein. C'est pas une chaîne qui pète les scores, etc. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Jean, je t'ai découvert avec les vidéos YouTube que je gobe à la pelle, je comprends rien du tout, mais ta voix m'apaise, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal, bah, j'en suis très heureux, très content. Bienvenue à toi, j'espère que tu comprends un peu plus quand même, des trucs et des machins, quand même. Mais bon, si la voix te convient. Est-ce qu'on va parler de l'interview de Monsieur le Président ou ça a déjà été fait? Non, ça n'a pas été fait, j'ai pas regardé l'interview d'Emmanuel Macron de dimanche. Je l'ai pas encore regardé. J'ai pas encore regardé. Je suis pas sûr de la regarder. J'ai lu des articles qui en font le compte rendu. Ça, c'est une interview d'une trentaine de minutes où apparemment il n'y a pas eu d'annonce phénoménale. Donc ouais. Merci Max Outea et merci Damos pour vos resubs. Merci. Bonjour tout le monde, je suis ravi de voir que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche va être invitée sur Backseat. Je suis concerné par cette tutelle, donc j'ai hâte de voir quelles seront ses réponses à l'interview Backseat. Eh bah ben, merci Liliana. Oui, la ministre de Sylvie Retailleau, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, sera notre invitée politique demain. On voulait faire une émission un peu sur la rentrée étudiante. Il y a un paquet de sujets à aborder avec elle, notamment la précarité étudiante, les conditions et le financement de l'enseignement supérieur, des universités. Il y a un paquet de sujets. On va pas manquer de sujets et on a plein de questions à lui poser. Donc voilà. Merci Aquarius pour ton resub. Merci Charlène pour ton resub. Il y a quand même sur les annonces sur le Niger, c'est une vraie grosse nouvelle dans l'interview de Macron. Le retrait des forces françaises du Niger, c'est ça qui a été annoncé? Je veux bien que tu m'éclaires là-dessus, je t'avoue. Parce que la preuve, j'y suis pas là, je l'ai pas. C'était touffu hier à l'Académie du Climat. Ouais, c'était cool. L'Académie du Climat, hier, c'était notre première émission en collaboration avec la ville de Paris, en partenariat. On a essuyé les plâtres avec la ville de Paris de ce type d'émission. Et j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça très chouette, très intéressant, très content d'avoir accès à un lieu comme celui-là où, quand même, le plateau, je trouve qu'il avait beaucoup de gueule, c'était grand, c'était sympa. Et puis voilà, on s'est essayé à une émission un peu différente. Sur la démocratie, le sujet était probablement trop large parce que la démocratie, c'est fascinant, mais en réalité, la démocratie, tu peux en faire une saison de 10 émissions que tu n'auras toujours pas fini d'aller au bout du sujet. En gros, il y a un retrait progressif de l'armée et un retour de l'ambassadeur. D'accord, ok. Par contre, Macron, dans l'interview, à un moment, il dit que ce n'est pas l'État qui gère la taxe foncière, vrai ou fake news? Vrai news. La taxe foncière est une des taxes qui est gérée par les collectivités locales, donc les communes notamment, ou les collectivités de communes diverses et variées, les agglomérations, tout ça, tout ça. La taxe foncière est effectivement un impôt local. Et Emmanuel Macron a effectivement déclaré que si la taxe foncière augmentait, et c'est vrai qu'il y a des augmentations de taxes foncières pour beaucoup de Français, que si l'augmentation de, si la taxe foncière augmentait, c'était pas, il fallait pas venir chialer auprès du président parce qu'elle n'en est pas responsable, c'est les communes qui décident de monter les taxes foncières. Et il a raison, parce que c'est le principe de la décentralisation en République où une partie des prélèvements obligatoires sont décidés localement par des organes délibérants que sont les conseils municipaux, les conseils départementaux, les conseils régionaux. Là où ça a énervé quand même beaucoup d'élus locaux et de maires quand il a dit ça, c'est une manière de dire c'est vos maires qui augmentent vos impôts. Moi, Macron, de mon côté, j'ai supprimé la taxe d'habitation, etc. Je suis quand même le copain de la baisse des impôts des Français, etc. C'est les méchants maires qui augmentent les impôts. Les maires en veulent à Macron quand il a dit ça, parce que les maires estiment que s'ils augmentent les impôts, au niveau locaux, notamment les taxes foncières, c'est pas pour le plaisir. C'est aussi en partie à cause d'Emmanuel Macron qui ne donne pas assez d'argent aux communes. Parce que je vous rappelle que les communes perçoivent, je vous la fais très simple, hein, mais deux types de rentrées d'argent. Il y a de l'argent qui est donné par l'État, donc Emmanuel Macron est un peu responsable, et il y a l'argent qui est donné par les impôts locaux. Si on augmente l'impôt, l'argent en revenu dans les impôts locaux, c'est aussi parce que l'argent donné par l'État baisse. C'est une vieille discussion et c'est une vraie discussion très politique sur la gestion des ressources des collectivités locales, où le gouvernement est accusé par les collectivités locales de ne pas suffisamment compenser la suppression de la taxe d'habitation, ou alors pas assez rapidement, de mettre en place des critères hyper relous pour toucher de l'argent, etc., etc. Donc c'est un débat. Donc Macron a raison. Les maires ont aussi raison quand ils disent que Macron n'est pas tout à fait étranger à l'augmentation des taxes foncières. Et puis par ailleurs, il y a l'inflation. Et l'inflation, ça veut dire quoi quand je dis l'inflation? Mais ça veut dire que je vous rappelle que les collectivités locales, elles aussi, elles payent toute l'année des trucs. Les communes achètent des aliments pour nourrir les cantines scolaires. Bah, quand le prix des aliments, quand il augmente pour vous le prix des aliments chez Leclerc, il augmente aussi pour les communes qui achètent des aliments pour nourrir les gosses. Les communes achètent de l'énergie pour chauffer, pour mettre du pétrole dans les voitures de service de la municipalité, etc. L'électricité pour éclairer tout ça, les éclairages nocturnes, les éclairages de nuit, les éclairages des bâtiments publics, etc. C'est payé. Le salaire des fonctionnaires par ailleurs, oui, le salaire des fonctionnaires territoriaux est fixé selon des barèmes qui sont négociés évidemment avec l'État. Donc, l'inflation touche aussi les collectivités. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des choses prévues pour les étudiants précaires ou pas trop encore? Eh bien, on va poser la question demain à la ministre, qui est chargée justement du dossier, et elle nous répondra. D'autant qu'il y a des débats actuellement assez intéressants autour de ce sujet-là. C'est super galère pour le contribuable de vraiment comprendre où est le problème entre Macron ou les mairies. Mais c'est parce que, comme je te l'explique, la réponse n'est pas aussi évidente que ça. Il n'y a pas un gentil et un méchant dans l'histoire. C'est plus subtil, c'est plus complexe. Merci Rally50 pour ton resub, merci. Comment ça, tout n'est pas noir ou blanc? C'est un chouïa plus compliqué que ça. Ça a dû être posé 10 fois, mais à ton avis, il y a du monde chez LR dans une ligne Charles de Consigny. Alors non, ça n'a pas été posé 10 fois, d'autant que je ne comprends pas la question. C'est quoi la ligne Charles de Consigny pour toi? Charles le Conseiller n'est pas un élu. Il n'est pas. Donc voilà. Mais pour revenir à. Pour, oui, pour revenir quand même à l'émission d'hier, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'étais très content de cette première émission. On était à l'Académie du Climat. Du coup, c'était la première fois qu'on avait l'occasion de faire une émission à l'Académie du Climat. Une grande et belle émission. Enfin, grande et belle émission parce que la salle était grande, parce qu'il y avait du monde dans le public. Les gens qui étaient dans le public, c'était pour partie du public de Baxit. Je vous rappelle que les donateurs de Baxit sont invités dans des événements comme celui-là. C'est aussi ça qui est chouette quand on fait un don à Baxit et qu'on participe au financement de l'émission Baxit, c'est que vous recevez des invitations pour assister à ce type d'émission, à ce type d'événement. Pollen Chill qui aura lieu samedi, c'est également l'occasion. Et pour partie, c'était aussi du public de la ville de Paris. La ville de Paris est une institution qui a quand même, il y a 2 millions d'habitants à Paris. Ils ont tout un tas de listings d'invitations pour des citoyens dans les conseils de quartier, dans les machins, etc. Donc voilà, donc c'était, y avait plusieurs publics qui sont venus, c'était chouette. Merci Ventilo pour ton resub. Merci Corial. Merci Ranero aussi. Merci beaucoup. Petite question constitutionnelle sur le futur budget. Combien de fois le gouvernement peut utiliser le 49.3 pour éviter des amendements? Le 49.3 peut être utilisé autant de fois que le gouvernement le souhaite sur les lois budgétaires. C'est sur les lois non budgétaires que le gouvernement est limité à une utilisation par session parlementaire. Grosso merdo, par an. C'est un peu plus subtil, mais c'est l'idée. Comment ça se fait que comment ça se fait que les femmes ne touchent pas autant que les hommes? Seulement problème de société, vraie raison. Ça reste vraiment incompréhensible pour moi en tant que meuf. Elle est difficile ta question, comment ça se fait que les femmes touchent moins que les hommes? C'est une inégalité de revenus. Je suppose que tu fais référence au salaire. Les femmes sont moins payées que les hommes à compétences égales et à postes équivalents en moyenne, même si ça progresse de plus en plus. L'écart se resserre, mais pas suffisamment. Et comment ça se fait? Bah, comment ça se fait? C'est une très bonne question, ça. C'est une misogynie? C'est ce qu'on appelle le patriarcat, qui est un mot savant pour désigner une institutionnalisation du sexisme qui minimise et opprime les femmes, notamment dans leur salaire. C'est une discrimination. Est-ce que le gouvernement peut nous la faire à l'envers en passant des lois sur le budget pour pouvoir utiliser le 49.3? Alors la réponse est non. Le gouvernement n'a pas le droit d'utiliser le 49.3 pour faire passer des dispositions qui ne relèvent pas de règles budgétaires. Il pourrait être tenté de le faire. Dans le jargon, ça s'appelle un cavalier législatif. C'est quand tu essayes de faire passer dans une loi sur un sujet une disposition qui n'a rien à voir avec le sujet, mais tu essaies de le faire en scred. Genre, il y a une chance que ça passe, t'inquiète, tranquille. Les cavaliers législatifs, c'est interdit, c'est contraire à la Constitution et le Conseil constitutionnel veille, pardon, à empêcher ça. Et c'est particulièrement vrai en matière budgétaire. Un gouvernement qui voudrait dans une loi budgétaire. Alors, une loi budgétaire, attention, hein, ça permet de faire de la politique. Et c'est très important comme loi. Parce que quand on décide du montant des prélèvements et quand on décide de l'attribution, du budget, des budgets, on mène des politiques publiques. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que c'est une loi dépolitisée, machin. Non, 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 non. C'est très important le budget. Mais pour autant, tu peux pas jouer avec le budget pour faire passer des trucs un petit peu comme ça en scred qui n'ont rien de budgétaire. Le Conseil constitutionnel, ça lui arrive souvent de censurer des dispositions que le Parlement a voulu ou le gouvernement a voulu foutre dans une loi qui n'a rien à voir, qui n'a rien à faire là. Une question un peu large, mais est-ce que tu peux expliquer la différence entre la République et la démocratie? Comment l'un peut aller sans l'autre? Ah, putain, c'est une question difficile, ça. Peut-on imaginer une République qui ne soit pas démocratie et peut-on imaginer une démocratie qui ne s'inscrive pas dans un projet républicain? Je réfléchis, hein. Une république, c'est un système, c'est un projet politique que se donne ou pas une nation et qui proclame le principe de la chose publique comme étant central dans la gestion des affaires publiques. La démocratie, c'est un mode de gouvernement, c'est un mode de gouvernance qui suppose la participation, on l'a expliqué hier pendant une émission de 2 heures, la participation d'un corps qu'on appelle le peuple, avec des principes d'égalité, etc. Bon. On peut se proclamer république et ne pas avoir de fonctionnement très démocratique. La République populaire de Corée du Nord, la République populaire de Chine, les républiques socialistes d'Union soviétique. Et puis on peut avoir des républiques avec un gouvernement turbo-autoritaire, la République iranienne, dans lequel il y a des accessoires de la démocratie comme des votes, des choses comme ça, mais qui, pour un milliard de raisons, sont dévoyés. La République islamique d'Iran, voilà, c'est un exemple. Ah bon, la République de Corée du Nord n'est pas une démocratie? Non, la République de Corée du Nord, c'est un paradis. C'est le paradis des travailleurs, qui d'ailleurs rêvent tous d'aller s'installer en Corée du Nord. C'est bien connu. De toutes les manières, dès lors qu'on parle de république ou qu'on parle de démocratie, c'est toujours pareil, et c'est ça qui est intéressant, c'est la différence entre la proclamation et la réalité. C'est pas parce qu'on se proclame république que tout le monde doit être d'accord pour dire que c'en est une. Et c'est un truc que je dis souvent quand je vous parle des étiquettes politiques. On peut s'auto-attribuer des étiquettes, mais on peut aussi les contester en disant, bah machin, il se proclame truc, je suis pas tout à fait d'accord, parce que ça correspond pas aux attendus que moi je mets dans le truc. Du coup, le Vatican est une république théocratique. Non, le Vatican n'est pas une république, le Vatican est une monarchie. Le Vatican a une constitution monarchique, il y a un roi au Vatican qui s'appelle le pape, qui est élu en conclave par les cardinaux, c'est une monarchie. Qu'est-ce qui différencie un décret d'une loi classique? Une loi, c'est l'acte du Parlement, un décret, c'est l'acte du gouvernement. La loi est supérieure au décret. D'ailleurs, on parle souvent de décret d'application, puisqu'un décret est une loi, est pas une loi, putain, est un texte réglementaire qui précise l'application des lois. Si le pape est élu, alors pourquoi on considère que c'est un roi et non un président? Parce que un roi peut être élu. Alors ça, c'est un truc qu'on n'en parle pas. Attention, quand je parle d'élection, j'ai pas parlé de suffrage universel. Attention, attention, attention. Un suffrage universel, par définition, c'est une personne égale une voix. Mais dans l'Église catholique, les chrétiens n'ont pas de bulletin de vote. Les catholiques n'ont pas de bulletin de vote. C'est une constitution monarchique, ce sont des princes qui votent en conclave. Alors on utilise le terme de cardinaux qui se réunissent en conclave pour élire le prochain pape, etc. Mais à l'époque de la monarchie française, avant l'absolutisme royal, c'était les rois étaient élus par un collège de princes. Tu vois? Louis-Philippe d'Orléans a été élu, ouais, et puis même bien avant lui. Alors, je suis pas un expert en histoire des têtes couronnées françaises. Merci conjugaison pour ton resub, merci. Je sais pas si c'était les Capétiens ou les Carolingiens avant eux, je sais jamais. Il y a eu plusieurs fois, hein, dans l'histoire de France, où la question s'est posée de savoir qui c'est le roi, et on a réuni des princes qui se sont mis d'accord. Des grands électeurs. Oui, si tu veux. Mais bon, dans une logique, les grands électeurs sénatoriaux, ils sont élus. Là, c'était un droit du sang. C'était par la naissance que l'on obtenait la possibilité de donner son avis sur qui c'est le futur roi. Est-ce qu'il ne faut pas distinguer la fonction de chef d'État du pape au Vatican et de fonction de chef de l'Église? Alors, tu peux l'en distinguer, mais dans le mode de désignation, il n'y a pas de distinction. Le chef de l'Église catholique est désigné. Enfin, le chef de l'Église catholique et le chef de l'État du Vatican sont confondus. Donc, leur mode de désignation, c'est. En fait, c'est la même personne. En fait, ensuite, on fait la distinction quand il y a des visites diplomatiques, des discussions, des machins, mais fondamentalement, le pape, il est les deux à la fois. Il est chef d'État et chef religieux. Si Louis XX se présente à la présidence, peut-il se proclamer roi? Non. Non, parce que la Constitution prévoit l'inaliénabilité de la République. Donc non, il n'y a pas de roi en France et il n'y en aura pas. C'est pas prévu. C'est comme le coprince d'Andorre et le président de la République. Oui, c'est ça, par exemple. Oui. Andorre. Donc c'est une petite principauté, Andorre, vous savez, dans les Pyrénées, tout ça, tout ça. Andorre, leur constitution prévoit que le président de la République française est automatiquement le coprince d'Andorre. Ils font comme ils veulent, hein, les Andorriens, les Andorrois, les Andoristes. Ils ont décidé de faire ça. Bah, écoute, c'est leur problème, hein, voilà. Les endormis, les endorants. Non, en vraie question, ça se dit endorant? Ok. Voilà. Donc, non, mais c'est une question intéressante, hein, la question que tu poses sur le lien entre démocratie et république en France, virgule, après 2 siècles d'histoire mouvementée, politique et constitutionnelle, on lie indéfiniment, éternellement et universellement les deux. La France ne peut pas être autre chose qu'une république, et la république ne peut pas être autre chose que démocratique. On n'imagine pas une république non démocratique en France, c'est pas possible. D'ailleurs, quand Philippe Pétain a pris les pleins pouvoirs en 1940, il a mis fin à la République française. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous l'avez appris en cours d'histoire, Philippe Pétain n'était pas à la tête de la République française. Il était à la tête d'un autre régime politique qui avait un nom qui s'appelait l'État français. C'était son nom. L'État français remplaçait la République française. La République française proclamait la liberté, l'égalité et la fraternité. Philippe Pétain a dégagé ça et a mis en place l'État français qui proclamait le travail, la famille et la patrie. Et en 1944, la République a été réinstaurée, reproclamée. J'ai une petite question. Pourquoi l'État ne réagit pas aux problèmes écologiques? Si on ne fait rien, il n'y aura bientôt plus grand-chose à gouverner. Alors, l'État ne fait pas rien et l'État n'a pas d'absence de réaction. On peut juger que sa réaction n'est pas à la hauteur. On peut critiquer sa réaction en disant qu'elle tape à côté, on peut dire qu'elle manque d'ambition, on peut dire qu'elle manque de calendrier, on peut dire qu'elle est trop lente, on peut dire qu'elle est cynique, on peut utiliser la chose, on peut pas dire que l'État ne fait absolument rien. L'État, depuis maintenant une vingtaine d'années, les différents gouvernements ont mis en place des politiques publiques visant, avec plus ou moins de succès, je vous l'accorde, à participer à la lutte contre le réchauffement climatique, pour la protection de la biodiversité, etc. Voilà. Il se trouve que hier, non, lundi, le président de la République, Emmanuel Macron, a présenté une planification écologique que l'on peut critiquer de A à Z, etc., pour son manque d'ambition de machin, mais le fait est qu'Emmanuel Macron a un plan, c'est celui-là, il l'a présenté, etc. Voilà. T'as vu que Sunak a annoncé au Royaume-Uni, il a annoncé quoi? Est-ce qu'en France on pourrait aussi renoncer à l'accord de Paris? Bah on pourrait, oui. Trump l'a fait, hein. Je vous rappelle que Donald Trump, il a sorti les États-Unis d'Amérique des accords de Paris. Voilà, merci, au revoir. Et Joe Biden, dès qu'il a été élu président des États-Unis, il a remis les États-Unis dans les accords de Paris. Attendez, c'est le gardien de mon immeuble qui m'appelle. Oui, allô? Hop là, pardon. C'est le gardien de mon immeuble qui me prévient que j'ai reçu des colis. Effectivement, il m'a laissé un avis de passage. Je suis en retard. Merci Chouju pour ton resub. C'est cool, il y a encore des immeubles avec des gardiens, je trouve que ces petits métiers manquent. Oui, alors moi tu sais, c'est pas très. C'est pas très folklorique, hein. C'est une grosse résidence glaciale. C'est pas le petit gardien de quartier sympathique en bas de son immeuble haussmannien. Non, non. On est sur un groupe d'immeubles froids. Avec 1 milliard d'ascenseurs qui marchent jamais et tout. Mais le gardien est absolument adorable, et ça c'est important. Sympa le gardien, tous ne sont pas aussi prévenants. Non, non, mais en fait, quand le gardien il reçoit des colis à la loge, il me laisse un avis de passage dans ma boîte aux lettres. Sauf que moi, comme je suis un connard, je relève rarement ma boîte aux lettres, et donc du coup, lui, il a des colis qui s'entassent, donc de temps en temps, il m'appelle, pas pour être gentil, mais plutôt pour poliment me gueuler dessus en disant, dis donc, il y a des colis là qui en sont en train d'encombrer ma loge. Pourriez, s'il vous plaît, venir les chercher là? Je vous rassure, il a pas ce ton-là, mais le message est celui-là, et il a bien raison. Mea culpa, je suis désolé, je suis à la ramasse, j'ai un avis de passage sur mon bureau, je ne suis pas allé chercher mon colis, je vais le chercher, promis. Maintenant? Bah non, là je suis en stream. Vas-y, nous on bouge pas. Ah non, 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 non. Non, non, c'est loin, je suis là pour ces journées pour 5 minutes et tout. Non, non, ça va être chiant. C'est quand les QAG? Mardi prochain. Fais un unboxing. Alors j'ai reçu des bouquins, tiens, puisqu'on parle de colis que je suis allé chercher. J'ai reçu des bouquins. Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé. Vous vous rappelez? Elle a sorti son bouquin qui s'appelle Journal sur le début du Covid, tout ça, tout ça. Et elle me l'a envoyé. Tiens, le pavé. Je vais vous lire le quatrième de couverture. Donc c'est aux éditions Flammarion. Samedi 8 février 2020. Première soirée de libre depuis un mois. Mon mari et moi allons au cinéma. Appel du président de la République. Je m'extirpe de mon siège rapidement, dérangeant sans vergogne toute la rangée. C'est la première fois que j'ai l'occasion de lui parler du coronavirus seul à seul. L'unique lieu isolé est un petit escalier qui monte vers les toilettes, sur les marches duquel je me recroqueville. Tout est sombre autour de moi. Je sais que ce que je m'apprête à lui dire. Je peux enfin faire état de mon pressentiment et du tsunami que je crains de voir arriver. C'est à la suite de cette conversation qu'on m'a dit « Agnès, tu as fait peur au président. » 3 points de suspension. À travers ce journal tenu entre janvier et juin 2020, je veux révéler les instants de notre passé commun, l'envers du décor, les pièces manquantes du puzzle, celles détenues par la responsable politique que j'étais. J'espère que ce journal pourrait éclairer le récit national avec ses succès et ses échecs et aider à un retour d'expérience collectif. C'est pour moi l'occasion de rendre accessible aux Français un morceau de leur histoire. Clairement, Agnès Buzyn veut donner sa version de ce qui s'est passé pour ne pas laisser le narratif à des personnes qui, selon elle, ne rendent pas justice à ce qu'elle a vécu et comment elle l'a vécu. C'est donc le livre d'Agnès Buzyn qui revient là-dessus. Est-ce qu'il y aura des nems ou de quoi se sustenter à Pollen Chill samedi? Oui, samedi Pollen Chill, mon festival Pollen Chill, se tient dans un bar à Paris. Ça commence à midi et ça finit à 5-6 heures du matin. C'est un festival et le bar proposera une carte spéciale de snacking. Il y aura à manger, il y aura des nems, il y aura des trucs comme ça, etc. Alors je sais pas s'ils les auront à la carte, mais les nems au chorizo. Donc voilà, d'ailleurs, si vous voulez venir à Pollen Chill, de midi à 19h, il n'y a plus de place. Ça y est, c'est complet. Par contre, de 19h à 5h du mat, donc pour la soirée, il y a encore plein de places. Enfin, il y aura plein de places, non? Non, non, il n'y a pas plein de places, mais il y a des places. Et si vous voulez vous inscrire, vous avez reçu par mail le lien d'inscription, puisqu'il a été envoyé à tous les donateurs de Baxit. Comme je m'y étais engagé. Merci Croconoref 98 pour ton resub. Merci Hugo pour ton resub également. Est-ce qu'on peut vraiment croire que ce récit ne sera pas tronqué? Vraie question. J'ai quand même. C'est quand même autant un sujet de santé qu'un sujet de défense nationale et stratégie internationale, le Covid. C'est-à-dire. Agnès Buzyn donne sa version des faits. Elle veut se défendre. Donc elle vous donne sa version des faits. N'attendez pas à voir dans ce livre un compte-rendu objectif et neutre de ce qui s'est passé. Voilà. C'est les principes de tous les livres politiques. Oui, non, mais c'est ça. C'est le principe. Oui. C'est le principe. Merci New Age Retro Hippie. Merci Dark Cart. Pour vos resubs, merci beaucoup. Et le deuxième livre que j'ai reçu, Raphaël Lorca, le roman national des marques, aux éditions de l'Aube, avec la fondation Jean Jaurès. Raphaël Lorca, vous vous en souvenez, il avait été chroniqueur sur une émission Baxit, il était venu. Raphaël Lorca est un spécialiste de la communication politique et il travaille depuis quelques années sur ce sujet, qui est un sujet très intéressant, sur les images de marques et les récits véhiculé par les marques. Et donc il m'a envoyé son livre. Merci Raphaël. Est-ce qu'il me l'a dédicacé? Non, il m'a pas dédicacé. Pas grave. Est-ce que tu as le temps de lire tout ça à chaque fois? Non. Je vais vous lire, là aussi, le quatrième de couverture de ce livre, donc Raphaël Lorca, Le roman national des marques, le nouvel imaginaire français. Qui, aujourd'hui, raconte la France? Plus personne, répondent les Français, qui ne cessent de reprocher aux politiques leur incapacité à porter un discours cohérent et articulé sur ceux qui travaillent le pays en profondeur, ses idéaux, ses valeurs, sa sensibilité, mais aussi ce qui nous divise et ce qui nous rassemble encore. Cette défaillance narrative, au cœur du malaise français, ouvre l'espace à de nouveaux conteurs, souvent négligés lorsqu'il s'agit d'analyser la société française contemporaine, les marques commerciales. L'idée forte de ce livre, c'est que les prises de parole de Renault, SNCF et autres McDonald's influencent subrepticement la manière dont nous représentons collectivement la France et les Français. Pour mesurer l'effet de ce roman national des marques, entre guillemets, sur le paysage mental contemporain, l'auteur emprunte aussi bien aux sciences de la communication qu'à la sémiologie, à la sociologie ou à la théorie littéraire, et investit la dimension du symbolique et des représentations pour esquisser les contours d'un nouvel imaginaire politique. Intéressant. Raphaël Lorca, que du coup j'ai eu au téléphone il y a 15 jours, et il m'a parlé du coup de ce bouquin. Je savais qu'il était en train de l'écrire et qu'il allait le sortir et tout. Et il m'en a parlé un peu de ce livre en me disant, bah voilà, j'essaie d'explorer un peu la manière qu'ont des marques, de par leur récit, de par leur marketing, de donner une certaine image de la France, une certaine France. C'est un peu que Chenu de Justin Bridoux, le Tour de France, les nappes à carreaux. Ça dit quelque chose d'une manière de voir la France, la SNCF. Elle aussi, dans ses publicités pour le train, etc., elle dit quelque chose de la France, Renault, le constructeur automobile national, etc. Voilà, le roman, la narration de ce qu'est la France, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a des vices, de ce qu'il unit et tout, se trouve aussi de plus en plus, c'est ça la thèse de ce livre, dans cette narration faite par les marques privées commerciales. Et ça pose des questions parce que Raphaël Lorca, vous l'avez peut-être entendu dans plusieurs interviews, puisque là il est en tournée de promo pour ce livre, lui il explique que c'est pas normal et il invite les politiques à vite se ressaisir de ça, de la narration, pour ne pas laisser les marques privées envahir cet espace-là. Intéressant. Est-ce qu'une grande entreprise est considérée comme un acteur politique? Bah, on s'en fout de qui considère quoi. Le fait est qu'à partir du moment où une grande entreprise, dans des campagnes de communication, dans des positionnements de marque, etc., décide de parler de la France, c'est intéressant d'analyser comment elle raconte la France. Qu'est-ce qu'elle en dit et qu'est-ce que ça dit? Voilà. Merci Antoul, mais merci Lochop pour vos resubs. T'as jamais voulu être conseiller municipal ou élu? Non. Est-ce que tu as lu le bouquin de KG et Piketty? Ça a l'air d'être une vraie mine d'informations. Non, j'ai pas lu le bouquin de KG et Piketty. Peut-être qu'il est arrivé à la loge du gardien, il faut que j'aille le chercher, je sais pas. Je sais pas. Et non, je l'ai pas lu. Oui, ça a l'air d'être un livre très intéressant, l'analyse que propose KG et Piketty. Genre McDo ou les grands distributeurs qui parlent des agriculteurs. Ouais, par exemple. Par exemple. Le récit que font les marques de la France, c'est pas justement une France idéalisée par des consommateurs pour qu'ils achètent. Non, parce que parfois les marques font des campagnes de pub qui, au contraire, adressent très directement les fractures françaises. Il y a des marques qui se jouent de nos fractures, dans un but commercial évidemment, mais il y a des marques qui jouent le conflit entre l'urbain et le rural. Le conflit entre la droite et la gauche, d'ailleurs, ça arrive aussi. Il y a des marques qui se jouent des contestations du côté gaulois réfractaire, etc. Il y a des marques qui ont des narrations différentes. Donc non, c'est pas. Merci Ouigo. Benetton. Ouais, alors est-ce que Benetton parle spécifiquement de la France? Je sais pas, mais Benetton est historiquement effectivement une marque qui a toujours eu un positionnement marketing sur le multiculturalisme. McDo, il parle des jeunes. Ouais. McDo parle aussi agriculture. Ouais, McDo parle aussi agriculture. Non, mais c'est... Enfin, voilà. Donc si c'est un livre qui vous intéresse, aux éditions de l'Aube, Raphaël Lorca, le roman national des marques. Est-ce qu'il y a une table des matières? Qui raconte la France aujourd'hui? Donc là, il y a tout un chapitre là-dessus sur l'absence de narratif. Ça parle de Cyril Hanouna. Il y a des tableaux, hein. Il y a des tableaux, il y a des graphiques. Ah non, c'est sérieux. Hein. Ah non, 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 le boulot est sérieux. Hein. Je sais pas, est-ce qu'il donne des exemples de marques Il donne des exemples visiblement aux États-Unis de marques particulières, Ford, Budweiser et tout, qui parlent des États-Unis. Citroën. La vie ordinaire passe aussi par toutes ces choses qui peuplent le quotidien et le discours des marques s'est depuis longtemps donné pour mission de les représenter. Roland Barthes, le critique littéraire, est le premier à saisir le rôle culturel des marchandises promues par la publicité. Dans ses mythologies, il consacre des pages magnifiques aux saponines et détergents, et surtout à l'automobile, cette Citroën DS, qui selon lui est l'équivalent des grandes cathédrales d'autrefois, à savoir une grande création d'époque, conçue passionnément par des artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s'approprie en elle un objet parfaitement magique. Le sémiologue et publicitaire Georges Péninou consacre quant à lui la publicité comme une authentique poésie des objets. Il s'agit là culturellement d'une transformation importante, précise-t-il. Il y a eu des siècles où l'univers des choses ne signifiait pas où un certain ordre des choses matérielles, instrumentales, ne donnait ni prise, ni prétexte à dotation de sens. Dans une campagne de 2015 intitulée Everyday Heroes, héros de tous les jours, IKEA a poussé la logique jusqu'à rendre hommage à tous ces objets du quotidien qui nous rendent service, docilement, patiemment, malgré notre ingratitude. Ce tapis de douche que l'on piétine, ce cintre que l'on maltraite, cette brosse de toilette que l'on ne remercie jamais pour ses états de service. Voilà, c'est une page prise au hasard de ce livre. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Je vais essayer de le lire. La France de Renault versus la France de Zemmour. Intéressant ça. SNCF, le tableau de l'Hexagone. J'espère que ça vous donne un peu envie, parce que... Bref. Jean, si tu devais nous conseiller tes trois livres préférés sur la politique. Non, me demandez pas ça, j'en sais rien. Je suis un très mauvais conseil sur des livres politiques. Ça dépend tellement de ce que vous cherchez, de ce que vous aimez. La France de Renault contre la France de Zemmour, c'est pas tellement un versus, c'est plus une collaboration. Oui, enfin, je vois ce que tu veux dire, mais non. Justement, c'est plus le cas. Je suis désolé, je suis très très fatigué en ce moment. D'ailleurs, qui vient demain à Backseat? Il reste des places, les amis, pour venir dans le public de Backseat. Venez vous enjailler. Venez vous enjailler. Je vous rappelle que les nems et les bières sont offerts. C'est 20 euros pour les étudiants, les chômeurs et les précaires. C'est 35 euros pour le tarif de base. Donc c'est moins cher que l'année dernière. Franchement, c'est pas cher. C'est mieux qu'une soirée au théâtre. Normalement, je viens à la team. Let's go! Vraiment, venez. Point d'exclamation, place dans le chat. Vous cliquez sur le With Events. Vous vous inscrivez. Vous viendez. Vous payez. Et paf! Ça part! On boit des coups. Et on passe une super émission. L'émission commence à 18h30. Vous êtes les bienvenus à partir de 18h. Si vous arrivez un peu en retard, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Et si vous avez la moindre question. Sur les si vous avez la moindre question sur les places de Backseat, n'hésitez surtout pas à envoyer un mail à publicbackseat, tout attaché, @gmail.com. C'est la boîte mail qu'on a créée spécialement pour discuter avec vous. C'est Thomas qui s'en occupe. C'est Thomas qui s'occupe de public de Backseat. Voilà. C'est qui l'invité? Demain, l'invité politique de l'émission Backseat sera Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. À l'occasion de la rentrée étudiante. Enfin, à l'occasion, c'était il y a un mois la rentrée étudiante, mais on a pris un peu de retard. Chuch. Thomas qui carie. Ah, mais Thomas et carie de ouf. Blague à part, beaucoup de projets en ce moment. Jean, fais gaffe à ta santé physique et mentale. Ouais, je vais lever le pied en octobre, je vous le dis tout de suite. Là, je tire beaucoup trop sur la corde. Je suis très content, hein. J'ai eu un mois de septembre extraordinaire. Merci à vous d'ailleurs. On a fait des super émissions, on a relancé Backseat, il y a Paul Henschel qui arrive dans 3 jours. On a eu une émission à Strasbourg avec le Parlement européen, avec la Fondation pour la recherche médicale, avec la ville de Paris, plus plein d'autres émissions, etc. C'est beaucoup pour un seul mois de septembre. Donc, je vous le dis tout de suite, en octobre, je vais lever le pied, on va y aller mollo, on va reprendre des streams sur un rythme classique, Backseat toutes les semaines, ça c'est Backseat. Mais le reste... J'avais pas spécialement prévenu de venir à la base, j'ai reçu le mail du club Backseat, donc finalement je me suis dit let's go. Et bah trop bien. Sage décision. Ouais. C'était bien le truc d'hier. C'est vrai, ça vous a plu? Moi j'étais très content le truc d'hier. Donc le truc d'hier, c'était l'émission DemoStream qu'on a créée en partenariat avec la ville de Paris. Donc on en a fait une spéciale sur le sujet de la démocratie. Oui, c'était une bonne émission, moi je suis content. Je trouvais qu'on était trop nombreux en plateau. Alors c'est toujours la frustration parce que moi je suis content, plus il y a de gens différents sur mes plateaux, plus on a d'avis différents, de regards, etc. Donc c'est chouette. Le problème c'est que le temps n'est pas extensible et que du coup 5 personnes en plateau, je me sentais un peu frustré en termes de temps de parole et tout. Vous me savez, vous me connaissez, hein, moi j'aime bien donner du temps pour parler, pour revenir, pour expliquer, etc. Là c'était un peu lent, mais enfin c'était un peu lent, non justement, c'était du coup un peu chargé, mais c'est pas grave. Je préfère une émission devant laquelle on s'ennuie pas, quitte à être un peu frustré parce qu'on aurait pu rentrer un peu plus en profondeur, plutôt qu'une émission où en fait on se casse parce qu'on en a ras-le-bol au bout de 45 minutes, on a fait le tour du sujet. Donc voilà, j'étais très content des chroniques aussi, bravo et merci à Monsieur Phi qui est venu faire la chronique Qu'est-ce que la démocratie? C'était vachement bien et merci à lui. L'exercice était vraiment pas facile, mais il a été très bon. Hugo Micheron aussi sur le djihadisme et la question démocratique, c'était fascinant. Moi, ça se voit d'ailleurs, hein, sur le plateau, j'étais en train de boire ses paroles, c'était extraordinairement intéressant. C'était très très bien. Et puis le maire de Florence en visio quand même. Le maire de Florence en visio qui parle un français impeccable et qui intervient pour parler du municipalisme en Europe et tout. C'était cool. Est-ce que c'est en replay? Oui, ça va arriver en replay, comme tous mes streams sont en replay, je vous le rappelle, sur YouTube. Pas la peine de demander s'il y a des replays, tous mes streams sont en replay. Et puis d'ailleurs, si vous êtes abonné à ma chaîne sur Twitch, je vous rappelle que vous avez accès à tous mes replays immédiatement après leur diffusion. Quand est-ce que vous faites une émission avec l'équipe où vous invitez des politiques avec Usul et compagnie? Alors ça, on le fait tous les jeudis dans une émission qui s'appelle Backseat, qui est diffusée sur ma chaîne à 18h30. Entre la vidéo et la visio, c'était pas le même gars. Non, je me suis trompé. Hier, quand j'ai présenté la vidéo, j'ai dit que c'était le maire de Florence. En fait, non, c'était un détournement avec une intelligence artificielle de Salvini. Et ensuite, c'était le maire de Florence en visio. J'avais pas les bonnes infos dans mon texte. T'as déjà eu l'idée de faire une émission où tu invites des politiques? Ça pourrait être pas mal, ça. Genre une émission en plateau, où il y aurait du public, on serait en direct sur Twitch, il y aurait des chroniqueurs, il y aurait des invités politiques. Chaque semaine, on pourrait faire ça. Tu serais prêt à donner de l'argent pour soutenir un projet comme celui-là? Moi, je pense que ça aurait de la gueule. Je pense que ce serait utile. Je garde l'idée. Ça pourrait s'appeler Backseat ou quelque chose comme ça. Backseat? C'est à chier comme nom d'émission. Qui appellerait son émission Backseat? Ah, c'est vraiment une idée de merde. Hein. Enfin, je vous aime bien le chat, mais alors des fois, ça déconne, hein. Streamac, c'est mieux. c'est pour quand le temps des tempêtes, au fait? J'en sais rien. Ça, faut demander à Malek. Je sais pas. Je lui demanderai. On pourrait imaginer un quiz où Léa perdrait tout le temps dans cette émission. Bâtard. D'où vient le nom Backseat? C'est le chat qui a trouvé le nom. C'est vous, hein. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. En parlant du quiz, pourquoi il n'est pas découpé seul sur la chaîne replay? Je sais pas. Je sais pas. Merci aussi sec. Pour ton resub. Et merci Zanovanov. Et merci Micranta. Merci Fabrice pour les 100 bitcoins. Merci Gwenja pour ton resub. Merci pour votre soutien. As-tu déjà été contacté par un parti, un candidat, une institution ou par un partenariat politisé? Non, ça m'est jamais arrivé. De toute façon, ça n'arrivera pas parce que je le refuserai par principe. Ça m'intéresse pas. Je veux bien faire des partenariats avec des institutions, des collectivités, etc. Mais je veux pas faire des partenariats avec des partis ou des candidats à des élections. En revanche, j'ai déjà fait une émission qui a été financée par des partis politiques. C'était le match amical sur League of Legends entre une équipe et un député de La République En Marche et une équipe et un député de La France Insoumise. Pour ceux qui s'en souviennent, c'était il y a 3 ans. Et ça, j'avais fait une exception. J'avais accepté. L'émission était cofinancée, du coup, par LFI et La République En Marche. Ça, j'avais dit, oh, si c'est pour mettre à l'honneur le jeu vidéo, vas-y, let's go. Mais sur une émission où on parle de politique, je ne ferai pas de partenariat rémunéré avec des partis. Non, ça n'a aucun intérêt, d'ailleurs. Merci, la théorie du ruissellement, pour ton resub. La fête de l'UMA, c'est pas le PCF derrière. Non, la fête de l'UMA, c'est un journal, un quotidien de presse écrite qui s'appelle L'Humanité. Comme quoi LFI et LREM arrivent à faire des trucs ensemble. Ouais. Est-ce qu'on peut te recommander des gens et des assos pour le Before de Backseat? Non, vous ne pouvez pas. Parce que ce sont les créateurs de contenu que nous invitons sur le plateau de Backseat qui viennent avec les associations que ils et elles décident de mettre en avant. qui avait gagné le match entre les deux, au fait. C'était un BO3, le match, et c'était La République En Marche qui avait gagné. L'humain est tout de même très lié au PCF, on va pas faire semblant. L'humanité, c'est pas l'organe central du PCF, non. De mon temps, c'était marqué dessus, ça a changé. Alors peut-être que tu vivais dans les années 60-70. Oui, ça a changé. Non, l'humanité n'est pas le journal du Parti communiste français. Au demeurant, est-ce que vous croyez vraiment que si c'était le cas, il m'aurait laissé inviter Jean-Luc Mélenchon? Voilà, vous avez la réponse. Fabien Gay est sénateur communiste. Fabien Gay est sénateur communiste. Fabien Gay, c'est le directeur de l'Humanité. C'est pas le rédacteur en chef. C'est pas le directeur de la rédac non plus. Fabien Gay, il cherche du pognon. En gros. Pour sauver le journal. Je suis désolé si la question est con, mais Mélenchon n'est pas soutenu par les communistes. Jean-Luc Mélenchon a été soutenu par le Parti communiste français entre 2012 et 2018, notamment pour ces deux élections présidentielles de 2012 et de 2017. Et ensuite, il y avait des accords aux législatives. Jean-Luc Mélenchon, ensuite le Parti communiste français s'est autonomisé de Jean-Luc Mélenchon. Les communistes ont voté à l'occasion d'un congrès en 2018. Élisant à la tête du parti Fabien Roussel contre Pierre Laurent. Pierre Laurent était plutôt favorable à un rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon. Fabien Roussel a remporté le congrès du Parti communiste français sur une ligne d'autonomisation du Parti communiste français et de réaffirmation de sa spécificité dans le paysage politique, avec notamment le maintien d'une candidature 100% PCF à l'élection présidentielle, la sienne en l'occurrence. Et aujourd'hui, non, le Parti communiste français ne soutient pas Jean-Luc Mélenchon. Mais le Parti communiste français est lié à la France insoumise et aux autres partis de la gauche, pardon, dans un accord électoral qui s'appelle la NUPES, la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, qui a été créée en mai 2022, dans la perspective des élections législatives de 2022. Et c'est cette union qui était un accord électoral qui a permis à ces quatre partis de gauche de ne pas se gêner les uns les autres dans les circonscriptions et de parvenir à faire élire plus d'une centaine de députés à l'Assemblée nationale. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Quel est l'objectif de Baxit? Tu peux faire point d'exclamation Baxit si tu veux, et tu auras un lien qui t'emmènera vers la page de financement participatif dans laquelle il y a une description du projet. N'hésite pas. Comment est-ce que les places en commission sont attribuées? C'est les groupes politiques à l'Assemblée nationale ou au Sénat qui se démerdent entre eux pour se répartir les sièges en fonction du nombre de sénateurs qu'ils ont. C'est eux qui se débrouillent. Donc c'est en fonction de l'affinité des élus. C'était un accord programmatique aussi. La NUPES, pour la campagne législative de 2022, était aussi effectivement un accord programmatique. Comment tu prépares tes interviews pour tes invités politiques? Bah déjà, je les prépare pas tout seul. Enfin, ça dépend des interviews que je fais, mais quand c'est pour le cas de Baxit, on fait des réunions éditoriales avec les chroniqueurs et chroniqueuses pour se mettre d'accord ensemble sur les questions qu'on a envie de poser, pour se les répartir entre nous, pour voir les sujets qu'on veut aborder. Et puis ensuite, on lit l'actualité, on prépare nos émissions. Hein, c'est une préparation éditoriale. On fait des fiches, on lit des articles, plein de trucs. Est-ce que les invités ont les questions à l'avance? Non, les invités n'ont pas les questions à l'avance. Ils savent quels sont les sujets qu'on va aborder, mais bon, de toute façon, ils ont même pas un... Ils s'en doutent, hein. La ministre de l'enseignement supérieur, demain, elle sait de quoi on va parler. Hein. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. On parle d'actualité politique, on va parler de la rentrée étudiante, on va parler de la précarité des étudiants, des conditions de la recherche, du financement des universités. Il n'y a pas de mystère. Hein. Les chroniqueurs ont combien de temps de préparation en moyenne? Bah, on fait les émissions, on fait les réunions éditoriales le mercredi matin. Donc ils ont tout le mercredi et tout le jeudi pour préparer leur émission. Est-ce que tu connais les questions de tes chroniqueurs en avance? Non, je connais pas les questions de mes chroniqueurs parce qu'on détermine ensemble les sujets qu'on veut aborder. Mais ensuite, les chroniqueurs, ils ont une marge. En plus, ça dépend aussi de l'invité sur le plateau. Ça dépend de ce que dit l'invité. Il peut y avoir des rebondissements. Il peut y avoir des, etc. C'est pas, on peut pas une interview, ça peut pas se préparer avec un minutage précis, etc. Donc voilà. Est-ce que tu as déjà été pris au dépourvu par la réponse d'un invité backseat? C'est-à-dire pris au dépourvu? Non. Il n'y a pas de pris au dépourvu, il n'y a que des réponses. Hein. Moi, je pose des questions et il y a des réponses qui sont apportées. Après, il peut y avoir des réponses surprenantes, il peut y avoir des réponses inattendues, il peut y avoir des réponses. C'est rarement le cas. Hein. La première chose qui meurt à la guerre, c'est le plan. Ouais, c'est bien dit ça. Est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir, genre de charte backseat où c'est full confiance? Bah, on travaille à la confiance, évidemment. On co-construit cette émission ensemble. Moi, si j'ai des chroniqueurs sur le plateau, c'est bien parce que je veux qu'ils viennent apporter à backseat un regard, etc. Après, les chroniqueurs, ils connaissent aussi backseat. Ils savent quelle est l'ambition éditoriale de cette émission, son positionnement, la volonté de faire une émission accessible. Donc, je leur demande toujours de faire quand même pas mal de pédagogie quand on pose des questions, éviter le jargon. C'est facile de jargonner, mais c'est pas une émission qui s'adresse principalement aux aficionados de politique. On essaye au contraire d'être l'émission la plus accessible possible pour les gens éloignés de la politique. Et je leur demande de poser des questions pertinentes, je leur demande de faire de l'analyse. Voilà, mais ils acceptent l'exercice. Hein. Ils savent que c'est pas un débat, c'est une interview à quatre voix, donc on n'est pas là pour débattre. Est-ce que c'est toi qui invites les invités politiques ou c'est eux qui te demandent de venir? C'est moi qui invite les invités politiques. Enfin, ce sont mes coproducteurs, en l'occurrence Quentin et François. Surtout François, qui s'occupe de ce qu'on appelle la programmation. Dans le journalisme, la programmation, c'est un travail difficile qui consiste à trouver des invités pour des interviews ou des plateaux. La programmation. Donc, c'est François qui s'occupe de la prog. Et avec François, on détermine ensemble, autant que possible à l'avance, les invités politiques de Backseat. Je dis autant que possible parce que, comme Backseat est une émission d'actu, on veut des invités qui collent à l'actu. C'est toujours difficile parce que ça dépend de l'actu. Donc je ne peux pas vous dire qui sera l'invité politique de Backseat la semaine prochaine, je ne sais pas encore. On y réfléchit, on a des pistes, des réflexions, des envies, etc. Mais a priori, on déterminera ça de manière définitive autant que possible lundi prochain, vendredi, ce week-end, quoi. Donc on veut quand même coller à l'actu. Et ensuite, il y a des politiques qui veulent venir dans Backseat. Et à chaque fois, je leur réponds pareil. Désolé, c'est pas moi qui décide d'inviter des gens. C'est l'actualité qui m'impose des thèmes. Donc je t'inviterai le jour où il y aura une actu qui collera à ce que tu fais. Est-ce que tu as eu des invités que tu réinviteras plus? Non. Encore une fois, ça dépend de l'actu. Hein. Si un invité que j'ai déjà invité a à nouveau une actualité, est au cœur d'une actu, etc., ben je le réinviterai si j'estime que ça a du sens et tout. Est-ce que c'est aussi l'actu qui définit les chroniqueurs? En partie, ouais, en partie, oui, bien sûr. En fonction de l'actu, il y a des chroniqueurs qu'on a plus envie d'avoir que d'autres parce qu'on sait qu'ils ont des affections particulières sur des sujets, donc on préfère ça. Après, on essaye aussi d'avoir une rotation parmi les chroniqueurs, on essaie d'avoir une diversité des profils, on essaye de. Puis ça dépend aussi des envies des chroniqueurs. Les personnalités politiques sont-elles cordiales avant, pendant et après le tournage? Bien sûr. Non mais évidemment, les politiques, c'est pas des monstres, hein, c'est des gens gentils. Tout le monde est gentil. J'aime aussi beaucoup les émissions à thème comme celle que vous avez faite sur la démocratie. Ce serait cool d'avoir un thème sur la philosophie politique et la diplomatie un jour. Sûrement. Sûrement, oui. Ça, c'est Backseat, c'est une émission d'actu. L'émission qu'on a faite hier, Démostream, c'est une émission qu'on a faite en partenariat avec la ville de Paris. Donc nous, tant qu'on a des partenaires pour financer les émissions, on peut faire toutes les émissions que vous voulez sur tous les thèmes que vous voulez, hein. Mais c'est pas moi qui décide un matin de dépenser des dizaines de milliers d'euros dans la production d'une émission juste parce qu'un sujet me fait bander, hein. Malheureusement. Ne faut-il pas questionner ce qu'est l'actualité et inviter des gens sur des sujets long terme? C'est pas le projet éditorial de Backseat. Backseat est une émission d'actualité. Il y a d'autres émissions qui ont d'autres projets, qui ont d'autres ambitions éditoriales, notamment de faire des émissions hors du temps, de faire des émissions détachées avec un recul sur l'actualité pour parler long terme, etc. C'est de très bonnes émissions. Il y a des émissions philo. Où ça encule des mouches sur des sujets hyper pointus et c'est absolument passionnant. Il y a des émissions qui sont dans le commentaire d'actualité en continu. Voilà, vous connaissez BFM TV, CNews, LCI, France Info, etc. On peut faire des émissions de commentaires d'actualité. Là, c'est de l'info en continu. C'est encore un autre type d'émission. C'est pas non plus ce qu'on a envie de faire. Il y a plein d'émissions différentes. Nous, on fait un magazine d'actu hebdo en direct sur Twitch. Voilà. C'est ça l'ambition éditoriale de Backseat. Et donc effectivement, il ne faut pas attendre de Backseat ce que n'est pas Backseat. Et ce que ne sera jamais Backseat, et ce que Backseat n'a jamais voulu être. Je voudrais pas qu'il y ait d'incompréhension. Donc on fait pas de l'info en continu, donc on peut pas faire des breaking news, on est en direct de la manifestation, machin. On peut pas faire du live comme ça parce qu'on n'en a pas envie, on sait pas le faire, on veut pas le faire. On n'a pas non plus envie de faire de la philo politique, de faire des conférences, etc. C'est très intéressant, mais c'est pas ce qu'on a envie de faire. Est-ce que c'est déjà arrivé que l'actu soit trop dense et que tu demandes à tes chroniqueurs de privilégier tel sujet par rapport à un autre? On fait des réunions éditoriales le mercredi matin avec les chroniqueurs pour discuter ensemble des sujets qu'on veut aborder dans l'émission du lendemain. Et oui, on fait des choix. On fait des choix éditoriaux. Ça, on est obligé. Parfois, l'actu, elle est dense, comme tu dis. Et c'est vrai, t'as raison. Parfois, elle est dense. Parfois, on se fait chier. Hein. Ça arrive que l'actu, elle soit monothématique. Bah, par exemple, l'année dernière, rappelez-vous que la réforme des retraites, ça a quand même été l'actu numéro un pendant 3 mois. À un moment, on se faisait chier. Hein. Et à un moment, ça tournait en rond. C'était retraite, retraite, retraite. Il n'y avait que ça et tout. Le Covid en 2020. Alors, Backseat n'existait pas encore à l'époque. Mais à l'époque, les journalistes en télé, en radio, ils me disaient, on n'en peut plus. Ça fait 2 ans que le seul sujet, c'est le Covid. Et on en est où du vaccin, et le port du masque, et les restrictions, et les machins, les attestations de sortie. Ils avaient envie de se flinguer, les journalistes. Hein. Bon, bref. Donc, ça arrive qu'on se fasse chier. Mais ça arrive surtout qu'on ait une actu trop dense. Et du coup, on se dit, bon. Ok, l'émission de demain, on a plein de sujets dans l'actu. Qu'est-ce qu'on a envie de prioriser? De quoi on a envie de parler? Par rapport à vous, par rapport à notre public, par rapport à notre spécificité Backseat, par rapport à l'intérêt du sujet, par rapport à. Voilà, on fait un tri, on fait ce qu'on appelle des choix éditoriaux, en se disant, bon, bah là, on va. Est-ce que ça vous dit qu'on parle de ça? Ouais, il faudrait grave qu'on en parle parce que franchement, c'est au cœur de l'actu, c'est intéressant, il y a des trucs à analyser et tout. Donc, on fait des choix. Merci Frenchy Mexa pour ton resub. Merci beaucoup. S'il y a de l'actu chaude le mercredi après, mais le jeudi, vous gérez ça comment? Ça nous est déjà arrivé, hein, tu te rappelles, toi, il y avait des manifestations contre la réforme des retraites le jeudi. Et ben, on le traitait comme une actu du jour, ouais. On le traitait comme une actu du jour. Mais on prévoyait la veille que ça allait être l'actu. Après, oui, on se laisse toujours la possibilité de rajouter un sujet qu'on n'avait pas prévu parce que c'est un truc qui est sorti le mercredi soir. Mais en général, on essaie d'anticiper au maximum quand même. Un sujet fortement traité par d'autres médias a-t-il plus de chances de passer à la trappe? Non, pas forcément. Non, non, pas forcément. Backseat n'est pas une émission qui essaye de parler des sujets dont on ne parle jamais. C'est pas ce genre d'émission-là. Il y en a qui font ça, ils ont raison. Nous, on assume de parler des sujets d'actualité, même s'ils sont déjà traités par les autres médias. On s'en fout. Les autres médias, ils font leur métier, ils le font très bien, ils font ce qu'ils veulent, etc. Nous, on assume de parler, de traiter des sujets d'actualité, indépendamment de leur traitement par les autres médias. Un sujet qui est déjà traité par d'autres médias ne devient pas un mauvais sujet. Pareil, un sujet qui n'est traité par aucun média n'est pas automatiquement et naturellement un bon sujet. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est plus complexe que ça. Ça peut y participer, mais c'est plus complexe que ça. Par contre, c'est vrai, alors ça aussi, c'est un positionnement éditorial sur Backseat. Vous le savez, Backseat parle de politique, mais la politique, c'est un grand mot et c'est très large. Ça parle de beaucoup de choses, la politique. On a un savoir-faire et des prismes parfois sur l'actualité institutionnelle, sur l'actualité sociale et politique, partisane et électorale. Donc on parle beaucoup de ça. Backseat n'est pas vraiment une émission qui parle des petites phrases. On ne fait pas des réactions aux tweets de telle politique réagissant aux tweets et aux retweets de tel autre journaliste qui lui-même citait telle politique. Ça, cette petite écume du débat politique, ça nous emmerde, plus qu'autre chose. C'est vraiment pas intéressant. C'est pas ce qu'on a envie de faire en tout cas. Voilà. Faites pas un Twitter live. Ouais, non. C'est pas. Voilà. Moi, ça me ferait chier de mettre autant d'énergie, de temps et de moyens dans une émission qui passerait une plombe à commenter le tweet. J'ai un peu plus de respect pour vous. Il y a autre chose que j'ai envie de vous offrir qu'une émission qui commente les tweets. Ça emmerde tout le monde. Ah, détrompe-toi. Détrompe-toi. Vous savez comme moi que les petites phrases, les petites polémiques, ça cartonne sur Internet. Le clash, l'ambiance de merde, etc. C'est pas pour rien que ça existe, ça marche très très bien. Mais là, c'est pareil. On ne veut pas, et moi je ne veux pas, faire de Backseat une émission qui génère de la petite phrase qui va claquer sur Twitter, la petite info, la petite VOD YouTube là, qui va envoyer du pâté, où ça envoie des balles et ça tire à balles réelles, etc. Alors c'est sûr, je gagnerais probablement beaucoup plus d'audience, on gagnerait probablement plus d'argent, on gagnerait probablement, etc., etc. Mais c'est pas l'ambition éditoriale. Backseat, c'est une émission qui essaie quand même d'avoir un minimum de respect pour l'objet politique et pour le public, vous. C'est un peu déprimant que ça marche très bien. Bah il faut être. Oui, non, je suis d'accord. Mais après, il faut être lucide, hein. Ça marche bien. Le clash, ça cartonne sur Internet. Enfin, pardon, mais c'est vieux comme le rap, hein. Tu veux faire des vues, clash. Sois insupportable. Fais du react, ça marche très très bien, ça. Je réponds à truc. Les fameuses. Vous vous souvenez de la mode sur les vidéos YouTube? Je réponds à machin. Vidéo de merde là qui était pondue à la ligne et tout. Bah ça a marché, il y a des chaînes qui sur YouTube ont cartonné avec ça. Bon, bah nous, sur Backseat, on préfère vous faire une émission spéciale sénatoriale. On sait par avance qu'il n'y aura pas beaucoup de clics, mais au moins on vous respecte et on estime que c'est intéressant et important de vous parler des élections sénatoriales. Encore zéro clash avec Cortex, vous n'avez pas encore réussi votre vie, c'est vrai, t'as raison. Tu pourrais envisager une version papier, site internet de Backseat qui pourrait compléter les émissions en plateau? Mec, regarde la barre de dons là. Voilà. J'essaye déjà de faire une émission sur Twitch. J'essaye déjà de, voilà, de ménager ma santé mentale en faisant une émission sur Twitch dans laquelle les gens sont rémunérés, les invités sont de qualité, les chroniqueurs sont chouettes, etc. La version internationale, le voyage sur la Lune, etc. On verra plus tard. C'est à partir de 30 000 euros l'émission hebdomadaire, j'ai pas trop compris, j'avoue. Non, En fait, non, c'est d'ores et déjà une émission hebdomadaire. C'est juste qu'on est transparent avec vous. On a besoin que la barre de dons là arrive à 30 000 euros par mois pour garantir notre capacité à faire une émission par mois sur une saison complète. C'est ça le challenge. J'ai dit quoi par mois? Non, par semaine, pardon, pardon. Hebdo jusqu'en décembre et après on verra. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. On fait le pari qu'on réussira à financer jusqu'en décembre une émission hebdo. Et en décembre, on fait le point en fonction de combien il y a. Si on arrive à 30 000 euros par mois, alors on s'engage à continuer à faire une émission hebdo. Alors il y aura des pauses, hein, attention, c'est pas tout. On va prendre des vacances, il y a un moment, il faut que les gens respirent, il faut que les gens dorment, etc. Donc mollo. Mais si à 30 000 euros, on sait par avance qu'on va pouvoir continuer la saison. S'il y a moins, on verra. Si c'est pour sucer les socialistes et les verts, c'est pas la peine. Oh, les homophobes dans le chat, cassez-vous. Je sais pas si t'avais vu cette semaine, il y a la saison 3 de la série Parlement sur France TV. Ouais, je sais, je sais, je sais. Est-ce que des partenariats potentiels avec Mediapart sont possibles? J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas ce que Mediapart cherche. Je sais pas ce que Mediapart veut. Je sais pas si Mediapart a du pognon. Je sais pas. J'en sais rien. Jamais vu, elle est bien. La série Parlement est une très bonne série, oui. La série Parlement, si vous ne connaissez pas, c'est une série de France Télévisions que vous trouverez sur Internet. Et c'est une série dans laquelle vous suivez un jeune assistant parlementaire qui débute au Parlement européen. Et donc vous allez découvrir avec lui le Parlement européen et c'est une série comique, c'est une série très drôle, très réaliste, très amusante, très, très bien filmée, enfin, très intelligente. Elle est vraiment chouette. L'acteur principal c'est Xavier Lacaille qui joue ce collaborateur parlementaire, très très bon acteur. Et en vrai voilà, c'est une saison qui se regarde tranquille. C'est pas prise de tête, c'est assez drôle. C'est pas une série politique, machin, mais c'est plutôt pas mal. C'est quand le retour des QAG? Les questions au gouvernement ont repris hier mardi, mais je n'ai pas fait d'émission hier pour les QAG malheureusement, puisque j'avais l'émission avec la mairie de Paris, donc j'avais beaucoup de travail. Donc sur ma chaîne, ça reprendra mardi prochain. À partir de mardi prochain, toutes les semaines, le mardi à 14 h, vous pourrez suivre les questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale, commentées par mes soins. Merci à Zurich pour ton resub. Et merci Frenchy Mexa, je sais pas si je t'ai déjà dit merci, mais merci pour vos abonnements, merci beaucoup. Comment vois-tu les prochaines élections présidentielles, une hypothèse pour un second tour?
Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que t'attends de moi? Une prédiction? Disons pour te répondre que la prochaine élection présidentielle aura ceci de particulier que nous savons par avance que nous allons changer de président de la République, puisqu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Première donnée. Deuxième donnée, deuxième donnée, si on regarde les dernières élections présidentielles dans ce pays, on constate une instabilité et une imprédictibilité des stratégies des appareils, des stratégies des candidats, voire de l'identité des candidats, jusqu'à un an et demi avant l'élection. Donc, il est impossible de faire des prévisions à long terme sur l'identité des candidats à l'élection, et encore plus sur leur score, puisqu'il y a il y a une volatilité des électorats qui est très importante. Donc, il est tout à fait impossible, à l'heure actuelle, de se lancer dans je ne sais quel exercice périlleux de prédiction. On connaît des identités de personnalités politiques qui ont des aspirations, dont on suppose fortement qu'ils ont vocation à présenter une candidature à l'élection. Marine Le Pen, par exemple, ça paraît assez solide. Éric Zemmour, à date, ça paraît assez solide. Comment il s'appelle? Laurent Wauquiez, ça paraît assez solide. Et ensuite, du côté de la Macronie, il y a des questionnements autour de la personnalité de Gérald Darmanin, autour d'Édouard Philippe, qui sont des personnalités vues comme pouvant potentiellement reprendre le flambeau et défendre les couleurs et l'héritage du quinquennat. Quoi d'autre? Et à gauche, et ben à gauche, la question se pose. Le Parti communiste, sauf changement de stratégie à l'occasion d'un congrès, le Parti communiste devrait défendre une autonomie avec une nouvelle candidature de Fabien Roussel. Ça aussi, ça paraît assez crédible. La France insoumise, la question se pose de savoir si Jean-Luc Mélenchon va faire un pas de côté ou pas. Il semblerait qu'il soit parti pour souhaiter se représenter à nouveau en 2027. Mais une fois qu'on a dit ça, ça peut changer. Et les socialistes et les écologistes, ça va dépendre de beaucoup de choses. Notamment de la stratégie avec la France insoumise, etc. La France insoumise jure la vie de sa mère qu'ils ne feront pas de primaire. Parce qu'ils n'aiment pas les primaires. La France insoumise a, par le passé, juré d'autres trucs que finalement ils ont fini par faire. Est-ce que ça indique qu'ils finiront par faire une primaire? Non, ça n'indique rien. Ça indique simplement et ça rappelle la triste vérité à tout le monde, la triste ou la joyeuse vérité d'ailleurs, c'est une question de point de vue, que ça peut changer, que les choses peuvent changer, peuvent évoluer, etc., etc., etc. Macron avait dit qu'il considérait la limitation du nombre de mandats de foutaise. Pourrait-il essayer de modifier la Constitution pour changer cela? Emmanuel Macron, le président de la République, a qualifié l'impossibilité pour le président de la République de faire plus de deux mandats successifs de funeste connerie et non pas de foutaise. Soyons précis, s'il vous plaît, quand on utilise les gros mots du président de la République, je demande de la précision. Il a parlé de funeste connerie à ce sujet de ça. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut modifier la Constitution de manière à changer d'ici à 2027? J'y crois pas. Oui, c'est possible. Est-ce que c'est probable? J'y crois pas. Merci Angie pour ton resub, merci Blaise pour ton resub. On va pas se mentir, ça semble mort vu la configuration politique. Bah, soyons rationnels. Emmanuel Macron peut-il avoir une majorité des 3/5 du Sénat, de l'Assemblée nationale et du Sénat, pardon, donc du Congrès, pour voter cette modification? Non. Emmanuel Macron peut-il avoir une majorité des suffrages des Français à l'occasion d'un hypothétique référendum pour valider cette disposition? Non. Emmanuel Macron peut-il proposer un référendum dans lequel il va faire un package global en mettant plein de dispositions, dont celle-ci, et réussir à faire adopter ça par référendum? Vous savez comme moi que le peuple français, a le sens de l'humour. Et le cas échéant, aurait-il les voix pour être réélu? Oh, t'imagines? Attends. Scénario. Scénario. Emmanuel Macron organise en 2026 un référendum demandant aux Français de changer la Constitution de manière à ce qu'ils puissent se représenter une troisième fois. Après une longue campagne, les Français votent oui et ils acceptent. Donc on change la Constitution, maintenant c'est bon, le président de la République peut faire plus de deux mandats successifs. On arrive en 2027, Emmanuel Macron présente sa candidature, et là les Français le battent dès le premier tour. Tadam! C'est du French humour. Ce serait Gucci. Ah, ce serait... Ouf, on n'a pas fini de rigoler, hein. Ça nous ressemble bien. Ou alors, autre scénario. Autre scénario. Emmanuel Macron, en 2026, fait un référendum proposant aux Français, encore une fois, de changer la Constitution de manière à ce que le président de la République puisse faire plus de deux mandats successifs. Il y a une campagne, une très très forte campagne, dans le pays autour de cette question. Il y a la gauche, avec Jean-Luc Mélenchon en tête, qui mène le camp du non, non à la présidentialisation de la Ve République, non à plus de deux mandats successifs, c'est intolérable, etc. Machin. La droite, ils savent plus où se foutre, etc. Machin. Bon. Et finalement, les Français votent non. Les Français votent non. Emmanuel Macron perd son référendum. Jean-Luc Mélenchon est renforcé par sa victoire au référendum. Il se présente à l'élection présidentielle de 2027 et Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République en 2027. OK? Emmanuel Macron fait un mandat de président de la République de 2027 à 2032 et il est réélu en 2032. On arrive vers 2037. Et là, Jean-Luc Mélenchon se dit, c'est quand même dommage cette limitation de deux mandats successifs. Est-ce qu'on ferait-il pas un petit référendum pour changer ça? Dans la 6ème République? Alors, on rigole. On rigole. Mais ce que je viens de vous décrire là, cette petite ironie de l'histoire qui se retourne, c'est très exactement ce qui s'est passé avec les cohabitations. C'est exactement ce qui s'est passé avec les cohabitations. Première cohabitation en 86, Mitterrand se retrouve obligé de nommer un Premier ministre, Jacques Chirac, issu du RPR. On n'avait jamais vécu ça. La gauche est hors d'elle, trouve ça absolument intolérable, machin, etc. La droite trouve ça parfaitement naturel, c'est super, nouvel exercice, retour au texte constitutionnel, je ne vous refais pas l'histoire de la cohabitation, mais machin, etc. Et la droite trouve ça très bien, la cohabitation, après tout. C'est formidable, la cohabitation. Évidemment, c'est la droite qui a le pouvoir. Donc ils sont contents. Ok? On arrive en 97. Là, cette fois-ci, c'est Chirac qui est président de la République. Et la gauche qui revient en cohabitation. Chirac qui se retrouve obligé de nommer Lionel Jospin Premier ministre. Donc là, donc là, la droite dit c'est n'importe quoi la cohabitation. Et là, la gauche répond, ah, oh, mais c'est très bien la cohabitation. Après tout, c'est le jugement des Français. Bref, vous comprenez comment on en est arrivé en l'an 2000 à la réforme du quinquennat qui visait à mettre fin à la cohabitation. Les deux camps structurants politiques avaient connu l'un et l'autre la cohabitation dans les deux sens. Ils étaient d'accord pour dire que c'était de la merde. Donc il y a un moment, ils se sont dit, bon, on arrête cette merde, on aligne le quinquennat, le mandat des députés, enfin le mandat du président sur le mandat des députés. Et du coup, on n'a plus de cohabitation. Sauf qu'ils ont décidé d'inverser le calendrier parlementaire, calendrier législatif, calendrier électoral, pardon. Donc, maintenant, les législatives dépendent de la présidentielle et pas l'inverse. Et en même temps, aurait-il pu en être autrement? Je ne sais pas. À l'époque de la première cohabitation, la droite demandait à Mitterrand de démissionner. Il n'était pas si joyeux. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Bah attends, évidemment. La droite remporte triomphalement les législatives en 86. Mitterrand se prend une tôle. Bah du coup, c'est normal que... Alors, Twitter n'existait pas à l'époque. C'est dommage, hein. La droite qui vient de remporter les élections demande à Mitterrand de démissionner. Dis, mais le peuple français souverain vient de sanctionner le président de la République. Président de la République doit démissionner. À l'époque, le jeune Jean-Luc Mélenchon répond « Allez bien vous faire enculer !» C'est mort, Mitterrand va pas démissionner, cohabitation, tout ça, tout ça. On arrive en 1997. Jacques Chirac se prend une tôle monumentale aux élections législatives. La gauche se tourne vers le président et dit « Bah, il serait peut-être temps de démissionner, monsieur Chirac !» Et Chirac répond « Bah non !» Pourquoi on a fait le choix d'un quinquennat pour le président et pas 7 ans pour les parlementaires pour donner la parole plus souvent aux Français? Le but, c'était que les Français renouvellent plus souvent leur président de la République. C'était un argument démocratique de dire des échéances plus courtes pour que les Français puissent voter plus longtemps. Oui, plus souvent, pas plus longtemps. Les appels à la démission vont toujours très vite. Oui, quand on est dans l'opposition. Quand on arrive au pouvoir, on change de point de vue sur la démission. On va dire ça comme ça. Pour moi, ça devrait presque être cohabitation obligatoire. Tu veux imposer au peuple français une manière de voter plutôt qu'une autre? Je te suivrai pas là-dessus, mais ok. C'est les Français qui décident hein, s'il y a cohabitation ou pas, je vous rappelle. Le point de vue sur la démission en cas de cohabitation, c'est un peu comme en cas de mise en examen. Non, rien à voir. Non, rien à voir. Je pense qu'une bonne partie des Françaises sont d'accord pour plus de cohabitation. Alors peut-être, non mais peut-être, je n'en sais rien, je ne vais pas parler au nom des Français. Tout ce que je vous dis, c'est que c'est précisément la cohabitation qui a fait dire à des Français que la droite et la gauche étaient la même chose. C'est justement parce qu'il y en avait trop de la cohabitation que les Français n'en voulaient plus de la cohabitation. Donc peut-être que les Français ont changé d'avis en 25 ans, peut-être. certainement, je ne sais pas, mais l'idée de dire que on aimerait bien finalement tout bien réfléchi, on préférait l'époque où ils étaient obligés de gouverner ensemble et donc du coup ça donnait un centre mou machin, mais pardon de vous faire remarquer que en ce moment les Français ils sont plutôt dans l'exact inverse de ça. Les scores de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle viennent nous rappeler que les Français sont plutôt en soif de radicalité plutôt qu'en soif de. On se met autour d'une table, on boit le thé, on discute, tu vois. Donc. La vie politique ne serait-elle pas plus saine si on supprimait purement et simplement les partis politiques? Non. Non. Quand on voit le pognon de dingue qu'ils se mettent dans le thé, ça se comprend. Qui ça? Allez, une cohabitation, Le Pen-Mélenchon, je demande qui étrangle l'autre en premier. Ouais. Si on supprimait la professionnalisation des politiques et que plus d'élus provenaient de la société civile, ça ferait du bien déjà. On sait toujours pas ce que c'est que la société civile, mais ça a l'air d'être un endroit merveilleux, la société civile, en tout cas. Ça explique juste par l'augmentation de la différence de richesse en France, une politique de droite de Macron et donc le maquin de. C'est ça la clé de voûte. Je vois pas le rapport avec la cohabitation, on est d'accord. Je viens d'arriver dans le paysage politique et je n'arrive pas à définir la droite et la gauche. Est-ce que vous avez des définitions un peu générales? Tu n'auras que des définitions générales. Et c'est normal, parce que la droite et la gauche en politique, c'est comme la droite et la gauche en géographie, ou dans le secteur spatial. C'est des conventions pour se repérer. Mais c'est pas des absolus. C'est pas une définition. Y a pas une zone géographique qui s'appelle. Là, je parle pas de politique, hein, je parle vraiment de géographie. Il n'y a pas une zone politique qui s'appelle la droite, où on décide que c'est là. À la différence, par exemple, du nord et du sud. Le nord et le sud, c'est aussi une convention, mais par contre, ce sont des lieux physiques. Précisément, le nord, il est là. Voilà, on appelle ça le pôle nord et le pôle sud. Bon, la droite et la gauche, il n'y a pas de pôle droite et de pôle sud, et de pôle droite et de pôle gauche. Et en politique, c'est pareil. C'est des grands ensembles sur lesquels on convient, plus ou moins, de se mettre d'accord pour déterminer que ça appartient à une école de pensée politique qui s'appelle la gauche, dans laquelle il y a plein de courants différents, et ça, c'est plutôt la droite, dans laquelle il y a plein de courants différents. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a aussi des subtilités sur le centre, qui n'est ni l'un ni l'autre, mais qui est aussi un peu à la fois les deux. Tu as les droites radicales et les gauches radicales, qui eux aussi ont beaucoup de liens avec les droites et les gauches, mais qui ont aussi des différences qui les rendent plus radicales. Donc voilà, donc tu n'auras pas de définition précise et de convention universelle et absolue sur ce qu'est, ce qu'a toujours été et ce que sera toujours la droite et pareil pour la gauche, parce que la droite et la gauche sont des notions contextuelles, subjectives et en plus dynamiques, pas qui évoluent avec le temps, quoi. Donc. On peut dire qu'à l'aune du XXe siècle, sur des clivages centraux socio-économiques, parce que ça a quand même beaucoup été ça, le clivage au XXe siècle en France, la gauche représentait un ensemble de partis politiques, de personnalités et de mouvements se reconnaissant, d'idéaux, de solidarité, mettant en avant des valeurs d'égalité, et parfois allant jusqu'à prôner des révolutions, au nom de l'égalité, hein. Parfois allant prôner jusqu'à la poursuite de l'idéal républicain, etc. Là où la droite représentait, là aussi, un ensemble de personnes, d'institutions et de collectifs divers et variés, d'organisations, se réclamant davantage du conservatisme, de l'ordre et de la liberté et de la responsabilité individuelle. Une fois que je t'ai dit ça, on est resté dans les très grandes marges et c'est fait exprès. Parce qu'à partir du moment où on va rentrer dans le détail, on va rentrer dans un niveau où tout le monde pourra avoir son point de vue, etc. Et tu remarques, et c'est ça qui est intéressant, tu remarques que les camps politiques ont eux-mêmes des approches différentes vis-à-vis de la droite, de la gauche, etc. Par exemple, Éric Zemmour déclare, deux points, ouvrez les guillemets, Marine Le Pen est de gauche. Fin de citation. Pour Éric Zemmour, la gauche, ça commence à Marine Le Pen. Tout le reste, et ça va jusqu'au bout. D'accord? Pour Anas Kazib, qui est un ancien du nouveau parti anticapitaliste, le NPA, il a quitté le NPA en 2021 en dénonçant la droitisation du NPA, notamment les velléités du NPA de peut-être faire des alliances avec un parti de droite qui s'appelle la France Insoumise et qui, pour ces gens-là au NPA, était déjà trop à droite. Quand t'es un trotskiste révolutionnaire, la France Insoumise, c'est pas un parti de gauche pour toi. Hein. Donc je viens de te donner deux exemples particulièrement caricaturaux pour te montrer ce que je te disais quand je te disais que c'est subjectif la droite et la gauche. De ton point de vue et ta manière de voir les choses, tu vas pas être d'accord avec les autres. Pour lutte ouvrière, le NPA est trop à droite. Oui, non, mais voilà. Excusez-moi, je dois juste envoyer un texto à mes coproducteurs. Le compas droite-gauche s'est aussi énormément décalé vers la droite ces dernières années sur le modèle des USA. C'est pareil, encore une fois, je suis désolé, mais c'est un point de vue. Que je le partage ou que je le partage pas, je suis forcé de constater que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord pour regarder ça de cette manière-là. Si tu regardes du côté d'une partie de la droite, on vit dans une gauchisation de l'ensemble de la société française, européenne, occidentale. Tout le monde est soumis au péril wokiste, etc. Ces gens-là, enfin, j'entends, hein, j'entends complètement. Je suis entouré de gens qui me disent tout le temps qu'on vit dans une droitisation éternelle, etc. Très bien. Le fait est que j'entends aussi d'autres gens qui me disent que c'est terrible, c'est vraiment le gauchisme permanent. Macron, c'est un socialiste. Il y en a marre de cette gauche au pouvoir. Vivement le retour de la droite au pouvoir en France. Et quand je dis ça, je ne dis pas que tout se vaut et que parce qu'on a tous le droit d'avoir des points de vue, des regards et des positionnements et qu'il n'y en a pas un qui a un meilleur regard que l'autre, mais... Macron de droite, tu vois? J'avais interviewé, moi, à l'époque, sur Public Sénat, quand j'interviewais des sénateurs, j'avais interviewé plein de sénateurs, les Républicains, qui éclataient de rire quand je leur disais que Macron était de droite. Ils vous déconnez ou quoi? Macron de droite? Macron, c'est un gauchiste galvanisé, biberonné à la dépense publique, galvanisé à l'autoritarisme soviétique. C'est un wokiste mental, c'est pas un mec de droite, c'est un gaucho banal, médiocre. C'est une élite bien pensante parisienne, machin, etc. Ben voilà, c'était leur réponse. C'était leur point de vue, surtout. Merci Namas, merci YM, merci John Blade, et merci PVS aussi. Est-ce que l'extrême centre existe? Le centre en France existe. Le centre a une histoire. Elle date pas d'hier. Elle continuera probablement demain aussi. L'extrême centre, il faut pas chercher l'extrémisme dans la radicalité des positions, mais probablement dans comment dire, la raideur de la stratégie. Le MoDem de François Bayrou, créé après 2007, est un peu effectivement le représentant de ce centre. Enfin, c'est le centre indépendant. C'est ça le MoDem de François Bayrou historiquement. Par différence avec une partie de l'UDF qui a décidé de rallier l'UMP, Bayrou n'est pas d'accord avec ces stratégies-là. Lui refusait que le centre se noie dans une alliance avec la droite. Donc il a créé son propre parti politique s'appelle le MoDem et qui refusait l'alliance avec l'UMP et qui refusait d'être un supplétif d'une politique de droite conservatrice, etc. C'est les héritiers, les derniers héritiers de l'UDF autonome indépendante non gaulliste. Donc c'est pas un extrémisme dans la radicalité des propositions. Par contre, c'est une intransigeance dans la stratégie. Voilà. On m'a dit que les gens qui sortent de l'ENA ne sont ni de droite ni de gauche, ils cherchent juste un parti de façon opportuniste, c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Ceux qui avaient des sensibilités les avaient déjà avant de rentrer à l'ENA et les gardent après. Et ensuite, ça dépend de ce qu'ils veulent faire de leur vie, hein. T'es pas obligé d'être de droite ou de gauche quand tu sors de l'ENA, hein. Tu peux devenir haut fonctionnaire et vivre ta vie entière à l'IGF, faire ta vie, rentrer au Conseil d'État, faire du droit toute la journée et te foutre complètement de la politique, hein. Ça dépend beaucoup des personnes. Non, non, il n'y a pas de. Donc voilà. C'est pour ça que les notions de gauche et de droite en politique ont une utilité pour se repérer, pour savoir de quoi on parle, pour se situer globalement rapidement, etc. Mais ça perd de sa pertinence plus on descend dans le détail. Ou, à défaut de perte de sa pertinence, ça prend une place trop importante, je trouve, dans la dialectique et la discussion par rapport à des termes de vocabulaire qui ont le mérite d'être un peu plus précis. C'est pour ça que sur ma chaîne, vous m'entendez souvent utiliser des mots plus précis pour désigner les camps politiques, plutôt que droite, gauche, centre, etc. Parce qu'en plus, comme c'est une convention sur laquelle tout le monde n'est pas d'accord, si on commence à s'engueuler pour savoir si on est bien en train de parler de la même chose, en fait, on parle plus du sujet, on parle juste du la définition est-ce que le titre qu'on a mis au-dessus du sujet, c'est le bon? Et c'est chiant. Donc, c'est pour ça que je parle des socialistes, des écologistes, des insoumis, du Rassemblement national. Tu vois, donner le nom des partis, c'est déjà pratique. parler de la majorité présidentielle pour désigner pêle-mêle Renaissance, Horizon et Agir. Et le MoDem, pardon. Donc voilà, et puis même quand on désigne les idées politiques, là aussi, droite et gauche, ça a une utilité très, très globale et très méta, mais quand on rentre dans le détail, moi je trouve ça plus intéressant de parler du conservatisme, de parler de l'écologisme, de parler de l'insoumission, de parler du communisme, de parler du trotskisme, de parler du national-populisme, du nationalisme, de parler du conservatisme, du libéralisme, du progressisme, du fédéralisme, etc. Toutes ces écoles de pensée qui elles-mêmes nécessiteraient qu'on passe des heures à les décortiquer, les discuter, etc., mais qui permettent de là aussi de mieux centrer et de je préfère définir en utilisant ces mots-là plutôt qu'en disant bah ça c'est droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça c'est droite? La droite, elle est, comme je vous l'expliquais, elle est diverse, elle est variée, elle est plurielle. Et il y a pêle-mêle et en s'imbriquant difficilement du conservatisme, du libéralisme, du localisme. Parfois, il y a des opinions contradictoires sur des sujets à droite, sur le progressisme, par exemple. Depuis quand la soumission, c'est une école politique, ça veut dire quoi? L'insoumission se réfère à la doctrine et à l'ensemble de la pensée politique développée par un parti politique qui s'appelle la France Insoumise, qui existe maintenant depuis un paquet d'années, qui a présenté 3 fois un candidat à l'élection présidentielle qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon et qui développe une doctrine politique, basée d'ailleurs en grande partie sur des travaux de ce qu'on appelle, enfin de l'école de pensée qu'on appelle le populisme de gauche. Deux fois pour l'instant. Oui, alors avant, il y avait le Front de gauche. Et Jean-Luc Mélenchon a été 3 fois candidat. Ça veut rien dire, tu peux être conservateur et de gauche. C'est pas parce que tu peux être conservateur et de gauche que ça ne veut plus rien dire, le conservatisme. Mais bien sûr, tu peux être conservateur et de gauche. Et c'est pas parce qu'un même mot s'applique à différentes personnes qu'il perd de son intérêt. La personne lambda, je me compte dedans, ne connaissent pas toutes ces définitions de ces termes et de la précision les uns des autres, ça reste, il me semble, assez flou pour la majorité des gens. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ça reste flou, tous ces mots en isme que j'ai utilisés, mais ce flou ne doit pas être pour vous un blocage disant que vous n'y connaissez rien, etc. Vous n'avez pas besoin d'être capable de me donner une définition ultra précise de ce qu'est et de ce que ne serait pas l'écologisme pour pouvoir parler d'écologie. C'est pas grave. Le communisme, c'est 150 ans de débat pour savoir de quoi on parle. Bon, et ben ça n'a pas empêché des gens d'adhérer à des partis se disant du communiste, être élu, faire des carrières politiques, élaborer des propositions, des programmes, etc. Tu vois? Donc je suis d'accord avec vous sur le flou autour de ces idées. Je souhaite juste que ce flou ne nous empêche pas d'avoir des discussions. Et voilà, je veux pas que vous vous sentiez pas autorisé à manier ces concepts-là sous prétexte que vous n'êtes pas capable d'en donner une définition ultra précise. Et au demeurant, ce que j'essaye de vous dire, c'est que personne n'est capable d'en donner une définition ultra précise au sens de définition qui mettrait absolument tout le monde d'accord. Non, c'est plus compliqué que ça. Et le parti de Macron, au final, quelles sont les idées, les idéaux et leurs idéaux communs? Ont-ils une unité, laquelle? Le parti d'Emmanuel Macron, c'est Renaissance et c'est un parti qui soutient le président de la République. Donc, par définition, c'est le principe de la différence entre un parti d'opposition et un parti majoritaire, un parti au pouvoir. C'est qu'un parti au pouvoir, sa doctrine, c'est l'action gouvernementale menée par la personne au pouvoir ou les personnes au pouvoir. Renaissance est un parti libéral, étatiste, européiste. À certains égards conservateurs, à d'autres égards progressistes. C'est un parti individualiste. Il coche beaucoup de cases de ce qu'on appelle le centre en France. Il coche quelques cases de ce qu'on appelle la droite. Il coche peu de cases de ce qu'on appelle la gauche. Pff, encore que sur le progressisme. C'est le parti radical 2.0. Franchement, on n'en est pas très loin, ouais. Oui, on n'en est pas très loin, oui, en vrai. J'ai entendu des économistes dire que Macron était libéral, est en partie faux et que malgré les critiques de la gauche, il a des dépenses publiques faciles. Très bon exemple. Il y a un débat doctrinal pour savoir qu'est-ce que le libéralisme, qu'est-ce que le néolibéralisme, etc. Ça fait des heures de podcast sur France Culture pour savoir de quoi on parle, etc. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est un libéral, est un ultra-libéral quand on l'entend parfois, ou est-ce que Emmanuel Macron, j'ai quoi, j'ai dit Mélenchon, pardon, est-ce qu'Emmanuel Macron est un étatiste soviétique, etc. C'est votre opinion qui compte là-dessus. C'est à vous de vous faire une opinion. Emmanuel Macron coche plein de cases du libéralisme économique en ce qu'il met le paquet sur la responsabilisation individuelle des acteurs. Il a une politique clairement de l'offre, assumée comme une politique de l'offre, qui est quand même traditionnellement un truc mis en place par les libéraux. Il est pour la baisse des charges, il est pour la baisse de la complexité de la vie des entreprises, il est pour faire la chasse aux chômeurs pour qu'ils retrouvent du boulot en les responsabilisant et en les forçant à attraper n'importe quel boulot le premier qui passe. Il est pour la responsabilisation des allocataires du RSA pour les faire retourner vers l'activité. Voilà. Et en même temps, virgule, Emmanuel Macron a montré au cours de son quinquennat qu'il était parfaitement apte à faire usage d'un autoritarisme étatique en matière d'économie. Donc ça, c'est un truc très français de l'interventionnisme de l'État dans l'économie. C'est pas du tout le même point de vue que nos amis anglo-saxons, que ce soit les Américains ou les Britanniques de Thatcher, etc. Emmanuel Macron n'a pas hésité à faire des nationalisations stratégiques sur les chantiers navals, je sais plus lesquels, là, qui menaçaient d'être achetés par je sais plus qui. Emmanuel Macron n'a eu aucune difficulté à placer sous tutelle de l'État à peu près tous les salariés de ce pays pendant le Covid. Donc on est très très loin du libéralisme de nos amis les républicains de Ron DeSantis là en Floride. C'était au Texas, je crois qu'à l'époque, les vrais libéraux américains, ils disaient bah, si les gens qui chopent le Covid, s'ils crèvent, c'est leur problème. Voilà, c'est un autre rapport à la responsabilité de l'État en matière de santé publique. En Europe, on fonctionne pas comme ça. Emmanuel Macron fonctionne pas comme ça. Emmanuel Macron, il y a 2 jours, a parlé de planification écologique. Donc, il a embrassé la logique de la planification. Le mot planification, c'est le mot qui fait le plus horreur aux libéraux. Emmanuel Macron n'est pas contre les sanctions économiques sur des entreprises qui ne rentreraient pas dans les clous d'un certain nombre de régulations européennes, etc. Il a dit sur les standards bas carbone, etc., politique sociale, machin, sur la taxation aux frontières de l'Europe. Il est pour un certain protectionnisme. Donc tous ces mots-là font de Macron un anti-libéral au possible. Une fois que je vous ai dit ça, est-ce que Macron est un libéral ou pas un libéral? Je n'en sais rien. Je constate qu'il y a un débat doctrinal pour savoir de quoi on parle quand on parle de libéralisme. Est-ce que le PS est social-démocrate, à peu près comme tous les partis socialistes européens? Bah pareil, la social-démocratie. Alors, si ça t'intéresse, tu peux regarder l'interview qu'on avait faite de François Hollande sur le plateau de Baxit, où on lui avait posé la question de son rapprochement de la social-démocratie. Et en plus, il était à côté de Thomas Legrand, qui est journaliste à Libération. Et Thomas Legrand, comme il fait l'émission Enquête de politique sur France Inter, je lui avais posé la question. Et j'avais demandé à Thomas Legrand, est-ce que tu peux définir le hollandisme politique? De quoi le hollandisme est-il le nom? Et Thomas Legrand avait eu cette phrase, où je ne sais plus exactement comment il avait tourné, il avait dit, le hollandisme est une tentative d'inventer une social-démocratie à la française. Est-ce que le hollandisme était une social-démocratie? J'en sais rien. Si tu vas demander aux sociodémocrates allemands, ils vont probablement éclater de rire en te disant que non, c'est pas ça la social-démocratie. Est-ce que le PS est social-démocrate? Question de point de vue. En partie, ouais. C'est François Ruffin qui a écrit un bouquin dans lequel il dit que le PS n'est ni social ni démocrate. C'est quoi la social-démocratie au final? La social-démocratie, c'est une doctrine politique issue de l'Europe du Nord qui vise à instaurer un réformisme social qui ne cherche pas à renverser le capitalisme et l'économie de marché, qui cherche à en accommoder les externalités les plus négatives dans un but de justice sociale, et qui s'appuie pour ça sur les corps intermédiaires et notamment sur le dialogue social. La puissance très particulière de la social-démocratie que vous allez retrouver en Scandinavie, que vous allez retrouver dans certains pays, en Allemagne, au Danemark, etc., c'est que c'est un modèle qui s'appuie considérablement sur une politique contractuelle. Et la politique contractuelle, c'est la capacité des acteurs à se mettre d'accord à l'échelon le plus, où ça justifie le plus, pour trouver les meilleurs moyens de limiter les injustices d'un système et d'une économie de marché. Donc, c'est des syndicats très forts et très puissants, comme vous allez en trouver en Suède, en Allemagne, etc. Alors, ça fait des décennies que la question se pose de savoir si la social-démocratie est possible dans un pays comme la France, avec sa tradition à la fois républicaine, donc très jacobine, et en même temps marxiste, donc très révolutionnaire. Est-ce que la gauche française est capable de mettre en place une social-démocratie? Est-ce que notre faible taux de syndication n'est pas un obstacle absolu à la social-démocratie? Est-ce que notre rapport à la loi, on est quand même un grand pays de loi, les Français ne nous empêchent pas justement de mettre en place une politique contractuelle et tout? Voilà. Ok, merci pour le résumé. J'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de te donner envie d'en savoir plus. Pour comprendre que c'est difficile. Oui, la social-démocratie, qu'est-ce que c'est? On pourrait. Il y a des bouquins entiers qui ont été écrits là-dessus, des thèses entières, des émissions entières. Et ça fait des décennies que les gens s'interrogent pour savoir de quoi on parle quand on parle de social-démocratie, de quoi on parle quand on parle de libéralisme, de quoi on parle quand on parle de communisme, de quoi on parle, etc. Et tout ça est, encore une fois, contextuel, particulier, spécifique et tout. Les sociodémocrates européens se situent comment sur l'écologie? Historiquement, les sociodémocrates en Europe sont des alliés naturels, des partis écologistes. On le voit avec les sociodémocrates allemands, avec les écolos qui en ce moment sont en coalition. On le voit avec les Français, le Parti socialiste et le Parti radical de gauche, les Verts, puis Europe Écologie Les Verts. On le voit avec. Donc oui, non, ils sont plutôt alliés historiquement. Alors après, est-ce que l'écologie se résume au parti qui se réclame de l'écologie politique? Ça, c'est une discussion que je voulais savoir avec vous-même. C'est pour moi qui vais y répondre. D'ailleurs, les socialistes français sont ceux qui votent le plus au sein des sociaux-démocrates avec les écolos au Parlement européen. D'accord. Je comprends pas l'attachement de beaucoup de Français à la République, que je trouve être un système politique dépassé et qui mériterait d'être remis en question plutôt qu'adulé. Comme a dit un grand homme un jour, faites mieux. Propose-nous mieux. Il y a effectivement dans ce pays quelques millions de personnes qui sont attachées à la liberté, l'égalité et la fraternité. À la démocratie, à la défense des droits, à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'histoire et à l'héritage de ce projet qu'on appelle la République française. Merci Ozzy pour ton resub, merci. C'est quoi l'alternative? La liberté est-elle aujourd'hui une valeur de droite ou de gauche? Ça marche pas comme ça. Les valeurs, c'est pareil, hein. Les valeurs, c'est pas un truc sur lequel il y a des OPA et il y a des. C'est comme la garde des enfants, on sait précisément qui a la garde. Non, ça marche pas comme ça. Et puis on pourrait discuter pendant des heures de savoir qu'est-ce qu'on met derrière la notion de liberté. C'est quoi la liberté? C'est la liberté individuelle, c'est la liberté collective, c'est la liberté, l'autonomie des acteurs, la responsabilité des acteurs. La liberté d'aller sur le stream de Jean. La liberté de sortir votre carte bleue et de vous abonner à ma chaîne. Ça c'est une liberté. C'est écrit dans la DDHC d'ailleurs. Le sub à la chaîne Twitch de Jean Massier est libre. C'est écrit. Ça a été écrit en 1789. Je sais pas depuis combien de temps vous l'avez pas lu cette déclaration, mais c'est écrit dedans. Soutenez Baxit, comme disait Danton. Merci Skolslink qui offre un sub. Ah non, 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 qui renouvelle son abonnement. Bonsoir, je suis libre. Merci à toi. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression et le sub à Jean Massier. Voilà, c'est exact, c'est comme ça que c'est écrit. C'est exactement ça. Merci The Loser pour ton abonnement. Merci à toi. Bienvenue parmi les abonnés. Tu peux désormais bénéficier des replays de ma chaîne en intégralité sans avoir à attendre qu'ils soient uploadés sur YouTube. D'ailleurs, quand est-ce qu'on boit des coups ensemble? Je vous rappelle, chers amis, que demain soir, jeudi soir, si vous êtes à Paris, venez boire des coups. Et assister en public à l'émission Backseats. Venez, venez, on tourne dans le 20e arrondissement, vous faites point d'exclamation place dans le chat, vous cliquez sur le lien, c'est un lien with events. Vous prenez votre billet, je vous rappelle que ça participe au financement de l'émission Backseats. Merci pour votre soutien. En échange, on vous offre une émission de qualité dans le public et ensuite on vous offre à boire de la bière, du vin et à manger des nems, de la charcuterie, du fromage et des crudités. avec nous, avec l'équipe. On passe une bonne soirée et tout. Donc venez demain assister à Backseat. Et si vous êtes des donateurs de l'émission Backseat, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous inscrire pour venir samedi à Paris. C'est gratuit. Participez à la soirée qui suivra le festival Paul & Chill. Soirée qui se déroulera de 19h à je sais pas quelle heure du matin. Y a des apéros vegan. Oui, il y a des options vegan sur le buffet de Backseat. Donc venez, 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 venez demain. Venez demain à Backseat et si vous êtes donateur de Backseat, vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement. Vous avez reçu un mail pour ça, pour venir à Paul & Chill samedi soir. Il me reste à vous remercier d'être venu pour ce stream. Je vais aller chercher mon colis chez mon gardien. Tchoum 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 tchoum. Hop. Et d'ici là, attendez, je regarde. D'ici là, rien du tout. J'ai pas envie de faire de raid, ça me saoule. Allez, je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée, c'était cool. À très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye, au revoir.